Alléluia, 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 Alléluia.
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection.
Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Jésus leur répondit : Que vous a prescrit Moïse ? Ils lui dirent : Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua : C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont donc plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse une autre, en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les pharisiens abordent Jésus pour le mettre à l'épreuve. Et c'est bien effectivement une question piège et délicate, s'il en est une, que celle du mariage et de la fidélité dans le mariage, par-delà ou avec toutes les difficultés qui peuvent exister entre un homme et une femme. Un piège parce que Jésus, et chacun d'entre nous ce matin, peut se trouver pris entre deux extrêmes. D'un côté, celui de du rigorisme, rappeler la vérité sans être attentif à la diversité des situations ou bien au malheur qui peut toucher de nombreux couples. Ou de l'autre côté, une charité mal comprise qui serait une sorte de laxisme qui consisterait à tellement adapter la parole de Dieu et la nature humaine aux situations concrètes qu'on fausserait la notion même de vérité. Et c'est peut-être dans cette attitude que sont les pharisiens. Les pharisiens disent à Jésus : Est-il permis ? Est-ce que c'est une question de permis ou de défendu ? Comme si la loi, un changement de loi, comme certains l'espèrent à propos de ce synode qui n'est que consultatif, rappelons-le, ou même essayer de faire du lobbying à coup de coming out médiatique, eh bien, comme si une loi, un changement de loi suffisait pour apaiser les blessures du cœur de l'homme et de la femme. Non, Jésus nous invite à une autre voie. Il nous invite à cette troisième voie qu'il nous faut emprunter à sa suite, même si elle est parfois un peu déboussolante. Et c'est ce que Jésus dit lorsqu'il parle du commencement. Il nous faut revenir à la nature même de l'homme et même au projet de Dieu dans sa création que nous avons entendu dans la première lecture. Ce récit de la Genèse au chapitre 2 nous montre cette création de l'homme et ce besoin de communion qui est inscrit dans le cœur de l'homme. Ce qui est très beau, c'est que la manière dont est décrite la venue de la femme, eh bien, c'est au cours du sommeil. Le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Ce sommeil mystérieux, précisément, montre que l'homme n'a pas la main mise sur la femme, que finalement, l'autre, dans son altérité, et notamment son altérité sexuée, l'autre est un mystère. Et c'est peut-être ça la troisième voie qu'il nous faut emprunter pour sortir des ornières, des débats que les médias peuvent se faire écho. Celle du mystère. On ne peut pas comprendre l'homme et la femme, l'union conjugale, en dehors du mystère. Et ce mystère, c'est celui, il est à différents niveaux. C'est-à-dire, c'est d'abord le mystère de l'identité de l'homme et de la femme, différentes. Le mystère de l'altérité de la femme par rapport à l'homme, de l'homme par rapport à la femme, cette altérité sexuée qui est dans tous les domaines de la vie. Un mystère qui doit faire l'admiration. Je ne le fais pas, mais Adam, il a sûrement sifflé lorsqu'il a vu Ève apparaître. Waouh, cette fois, c'est vraiment l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire l'émerveillement. Et c'est ça la première chose qu'il nous faut redécouvrir, et que ce synode ne peut que nous aider à redécouvrir, c'est l'émerveillement devant la beauté de ce projet de Dieu. Alors interrogez-vous, vous qui êtes marié depuis peut-être de nombreuses années, est-ce que l'autre, dans son altérité sexuée, est-ce que l'autre est encore source d'émerveillement pour vous? Est-ce que vous êtes encore plein d'admiration pour, et même pas encore, de plus en plus, plein d'admiration pour l'autre dans son altérité? Est-ce que votre mari ou votre femme, vous arrivez de le regarder ou de le regarder en disant « Vraiment, c'est extraordinaire. » Est-ce qu'il y a cette admiration? C'est ça le projet de Dieu. Est-ce que l'autre est source d'admiration? Une admiration qui fascine et attire. C'est bien pour cela que vous êtes mariés, c'est pour cela que Adam quitte, bon, il n'a pas eu de père et de mère, mais enfin, que l'homme quitte son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Fascination et attirance. Donc Jésus nous renvoie à ce commencement qui est ce mystère de la création, de l'identité, de l'altérité et du don mutuel de l'homme et de la femme. Il faut revenir jusque-là, c'est un mystère. Le fait d'être attiré par l'autre, le fait de s'être donné l'un à l'autre, c'est un don. Si dans votre mariage, tout vous paraît normal et acquis, attention, c'est très mauvais. Si tout est acquis, c'est pas bon. Et non, il y a une part de mystère. Que vous soyez ce que vous êtes, que l'autre soit ce qu'il est ou ce qu'elle est, et que vous soyez rencontré, aimé et marié, et que vous soyez là encore aujourd'hui, c'est un mystère dans lequel il faut toujours redécouvrir avec un regard nouveau, rendre grâce au Seigneur pour ce mystère. Mais deuxième pas qu'il nous faut faire avec les pharisiens, et ils en sont là directement, oui mais c'est bien beau tout ça mon père, mais ça c'était avant la chute. C'est le chapitre 2 de la Genèse, il faut lire le chapitre 3. La pomme d'Adam qui lui restait en travers du gosier, etc. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Vous savez, avec vous savez, mon père, vous n'êtes pas marié, mais vous savez, c'est pas facile, et je le conçois. Comment est-ce que le péché vient fausser ou fissurer la beauté de ce plan originel? Est-ce que c'est encore possible? Et là, c'est une deuxième question qui vient à nous, c'est que qu'est-ce qui est finalement le plus grand? Est-ce que c'est le péché ou est-ce que c'est la grâce de Dieu? Et là encore, il nous faut appeler le mystère. Le péché est un mystère. cette espèce de désaimantation, on est aimanté par le bien, puis de temps en temps il y a un champ magnétique qui vient nous mettre de travers là, cette fissure de notre cœur qui se retrouve dans l'amour de l'homme et de la femme, c'est un mystère. Et si on ne commence pas par reconnaître que chacun d'entre nous, nous sommes un mystère à nos propres yeux, alors eh bien, nous ne pouvons pas reconnaître que lorsque l'autre me fait mal, c'est aussi, il n'en est pas responsable à 100%, il est aussi lui-même un mystère à ses propres yeux. Et nous sommes tous les deux, parfois, deux malheureux embarqués dans ce propre mystère, hein, un mystère qui nous dépasse. Et alors, nous acquérons petit à petit cette humilité. Hein, et alors, il est plus facile d'entrer dans le mystère du pardon et de la miséricorde. Hein. Il y a donc ce péché qui est un mystère, le mystère du mal. Malheureux homme que je suis, dit saint Paul. Hein, je ne fais pas le bien que j'aimerais faire, je fais le mal que je n'aimerais pas faire. Nous sommes un mystère à nos propres yeux. Là encore, si tout est facile et clair dans ma vie, ben oui, ça, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Je suis un mystère à mes propres yeux. Hein, et l'autre aussi. Mais ce n'est pas le mystère le plus profond. En tout cas, nous sommes invités à nous poser la question. Il y a certes le mystère du péché et du mal, mais il y a un autre mystère qui est celui de la grâce et notamment de la fidélité de l'alliance de Dieu. Et alors là, c'est très bien, puisque, à part les deux premiers chapitres de la Genèse, tout le reste de la Bible nous montre comment est-ce que Dieu agit et est fidèle à son alliance malgré les multiples infidélités de son épouse qui est le peuple juif et ensuite chacun d'entre nous. Dieu nous montre à travers tout cela sa fidélité incommensurable, sans mesure. Jamais il n'abandonne son peuple. Et cela va être manifesté avec éclat, bien sûr, dans le Christ qui est la plénitude de cette alliance. Et là, nous arrivons à ce mystère encore plus grand, c'est que le Christ, dans son alliance avec l'humanité, est allé jusqu'au bout. Il a donné sa vie jusqu'au bout. L'épouse qu'est l'humanité s'est montrée infidèle, mais Jésus, lui, est resté fidèle dans son amour jusqu'au bout. Sur la croix, Jésus n'a pas dit, écoutez, là j'ai fait quand même le maximum, vous commencez vraiment à me... Hein, bon, j'arrête, hein, j'avais mes clous, je descends, je vais trouver une autre humanité. Et non, Jésus est allé jusqu'au bout, il a donné sa vie jusqu'au bout. Et c'est ça un mystère encore qui nous dépasse. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, nous dit saint Paul. Et c'est là où il nous faut faire ce pas, c'est que plus grand que le mystère du péché qui a faussé ce très beau mystère déjà de la création, etc., il y a le mystère de l'alliance de Dieu en Jésus-Christ qui est bien plus grand. Et saint Paul le dit, et c'est le sacrement, ce mystère est grand, je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Le sacrement du mariage, le mariage justement chrétien, n'est plus simplement cette alliance humaine ou naturelle, entre guillemets, c'est l'alliance du Christ et de l'Église. Époux chrétien, vous participez à cet amour même de Jésus pour l'Église et de l'Église sainte pour son Sauveur. C'est-à-dire, c'est cette même charité de Jésus donnant sa vie sur la croix, « Père, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font, tout est accompli, etc. » C'est cette même charité qui coule dans vos veines. Pas simplement un amour humain, cette charité même qui va jusqu'à dépasser eh bien, le ressentiment, qui va jusqu'au pardon et au don total. C'est cela. C'est ça le mystère du mariage chrétien. D'où, voyez-vous, nous sommes invités, là encore, cette clé du mystère nous invite à entrer dans la miséricorde. Parce que Dieu nous fait miséricorde, alors nous-mêmes nous sommes invités à nous faire miséricorde, et spécialement au sein d'un couple. Alors interrogez-vous, quelle est votre attitude lorsque vous vous brouillez ? Ça arrive, heureusement, hein ? Lorsqu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, quelle est votre attitude ? Est-ce que vous arrivez à aller jusqu'à la miséricorde, jusqu'au pardon ? Ou alors, eh ben, on garde ça dans un coin, on rajoute une balle dans son chargeur, et puis quand le moment viendra, blam ! On redéchargera. Voilà. Interrogez-vous aussi. Peut-être que vous en êtes même plus à vous engueuler, parce que vous êtes tombé dans une sorte de guerre des tranchées. Tu bouges pas, je bouge pas. Si tu montes ton museau, boum ! Ça arrive, ça aussi. Là aussi, il faut en sortir. Il vaut mieux, de temps en temps, qu'il y ait une petite décharge électrique, mais qu'au moins, on redécouvre la joie de se dire « Pardon et je t'aime ». Donc, la miséricorde. Interrogez-vous, si vous avez la chance de vivre cette fidélité, est-ce que vous êtes un couple qui donne envie ? Est-ce que votre couple, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos voisins, etc., vos amis, votre famille, est-ce qu'il donne envie ? Est-ce que c'est un couple qui est miséricordieux, humble, doux, ouvert aux autres ? Où on trouve un soutien. Est-ce que, vous, par exemple, des gens qui ont plus de difficultés dans leur couple, eh bien, peuvent trouver une écoute, un accueil chaleureux dans votre couple. Interrogez-vous, est-ce qu'il y a cette miséricorde? Et ça, c'est celle du Christ sur la croix. Voilà, nous avons vu la question de ce mystère de la création, ce mystère à travers le péché et le mal. Nous sommes invités à croire à un mystère, à croire davantage au mystère du salut, hein, dans le Christ, de l'alliance de Dieu, que au mystère du péché et du mal. Et nous en arrivons donc, peut-être il faut quand même y répondre, à cette question de l'indissolubilité qui est vraiment la pierre d'achoppement, hein, la pierre d'achoppement de l'enseignement de l'Église sur le mariage. Hein. Et donc il nous faut partir de cette question de l'alliance. Lorsqu'il y a le sacrement de mariage, eh bien, ce n'est plus simplement l'homme et la femme qui s'unissent, c'est Dieu lui-même qui s'engage. Et heureusement, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait quand on part. C'est pareil quand on est ordonné prêtre. On ne sait pas ce qu'on fait. Il y a des grâces d'aveuglement au début. On dit, parfois peut-être vous dites, eh ben dis donc, si j'avais su tout ça le jour du mariage, je ne serais peut-être pas parti. Mais heureusement, le Seigneur, lui, sait ce qu'il fait. Et c'est pour ça que c'est surtout lui qui signe. Et vous, vous faites, nous faisons ce que nous pouvons, mais c'est surtout lui. Et donc, parce que ce Dieu qui s'est engagé, eh bien, le mariage dépasse les époux. Et c'est pour cela, c'est Dieu qui les unit, que l'homme ne le sépare pas. C'est bien pour cela que l'Église, fidèle à cette parole de Jésus, ne peut pas entrer dans l'esprit du monde, consisterait à justement bien dire en fonction des situations, d'eux, etc. Elle fait déjà avec tout ce qui est la nullité du mariage, mais elle ne peut pas aller contre la parole du Seigneur, parce que le Seigneur n'est pas descendu de la croix. Et donc, cette question du divorce, pour l'Église, le divorce n'est rien. Le mariage sacramentel est quelque chose, mais le divorce est un acte civil. Mais ce qui compte, c'est la fidélité à son état de vie. On entend souvent, « Ah ben, je suis divorcé, je ne peux pas communier. » Ce n'est pas forcément vrai. Ce qui compte, c'est d'être fidèle au sacrement qu'on a reçu. Si on continue à vivre, eh bien, sans être engagé avec quelqu'un d'autre, si on a demandé pardon au Seigneur pour la part de faute qu'on peut avoir dans le divorce, parce que c'est rarement 100%, 0%, alors la communion est ouverte. Ce qui est le problème, c'est lorsque on s'installe dans une autre union. Le Seigneur nous a unis et puis on dit je m'installe autrement. En fait, on fait ce que Jésus, lui, n'a pas fait, qui est resté fidèle jusqu'au bout. Et c'est là le problème. Et l'Église dit il y a un défaut entre la vie que l'on mène et la communion au corps du Christ, qui lui, justement, a donné sa vie jusqu'au bout. On dit à Jésus, je veux te suivre, mais Jésus dit, suis-moi sur la croix. Et dans la communion, on vit finalement, là aussi, une sorte de divorce entre sa vie et la communion qu'on veut recevoir. Là aussi, attention, ne pas recevoir la communion ne veut pas dire être excommunié, ça n'a rien à voir. Être excommunié, c'est être en dehors de la communion de l'Église. C'est que pour des choses extrêmement graves. Ne pas recevoir la communion, c'est reconnaître que je suis sur un chemin de conversion et que je n'arrive pas pour l'instant à vivre les exigences de l'Évangile, mais j'en ai le désir. J'ai ce désir de retrouver la fidélité à l'union que le Christ a bénie au jour de mon mariage. Cette question donc, voyez, de la fidélité du mariage, elle est en quelque sorte un nœud. C'est-à-dire que si je le défais, ce nœud, alors je défais la totalité du mystère de la foi chrétienne. Si je ne reconnais plus l'indissolubilité du mariage, alors je ne peux plus dire que le Christ est vraiment ressuscité, que sa passion et sa croix, sa résurrection, sont source de vie pour tout homme, que sa vie est plus forte que la mort, plus forte que le péché et le mal. Je ne peux plus dire que le mystère de l'alliance de Dieu est plus grand que le mystère du mal. Alors je ne peux plus dire finalement que dans l'Eucharistie, le Christ se donne sans mesure. Ceci est mon corps livré pour vous. Eh bien finalement, ça ne porte pas tout le fruit qu'on pourrait attendre. Alors, non, ce n'est pas vrai de dire que rien n'est impossible à Dieu. Alors tout cela, l'alliance de Dieu, tout se trouve remis en question. Il y a ici une clé pour entrer dans le mystère de la foi chrétienne. Et c'est pour cela que justement le démon s'y attaque beaucoup. Et c'est pour cela que nous devons nous redécouvrir la beauté de ce mystère. Concluons, excusez-moi, j'étais un peu long, mais peut-être il le fallait. Jésus nous dit, après que les disciples l'ont de nouveau interrogé, parce qu'eux aussi ils ont du mal à entrer dedans, rentrer à la maison, dit Jésus, qu'est-ce que tu nous racontes là? tout de suite, nous avons l'épisode des petits-enfants. Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Et c'est peut-être cela. Nous sommes invités à croire que nous sommes un mystère, mais que le plus grand des mystères, c'est celui de l'alliance de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, il faut un cœur d'enfant pour croire cela. Pour croire qu'il est toujours possible de reprendre le chemin du bien. Il est toujours possible de vivre la grâce du pardon. Il est toujours possible de vivre même la grâce de la continence parce qu'on a pris une nouvelle union. C'est toujours possible. La grâce que Dieu ne nous refuse jamais. Et ça, il faut un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant pour s'émerveiller devant la beauté de ce projet de Dieu. Un cœur d'enfant pour croire qu'il est toujours possible de recommencer. C'est ce que nous allons vivre maintenant, et c'est la grâce que nous allons demander dans l'Eucharistie de ce jour. Ceci est mon corps livré pour vous. Tous, nous allons vivre tout à l'heure ce mystère d'être rachetés, d'être nous-mêmes infidèles à l'alliance du Christ et de Dieu tous les jours de notre vie, chaque fois que nous péchons. Nous avons besoin de venir puiser à la grâce de l'Eucharistie. Alors, ce sera comme des pécheurs pardonnés, mais émerveillés devant le mystère de cette alliance que Dieu fait avec nous personnellement, que nous viendrons communier, et nous prierons chacun pour nos couples, nos familles, pour aussi ceux que nous connaissons et qui sont eh bien divisés. Nous prions pour cela et nous prions pour l'Église, pour le synode et le pape en particulier, pour demander la grâce de ce cœur d'enfant, de ce nouvel émerveillement. Amen.